Nous allons ce matin continuer notre série sur les lettres, les sept lettres aux églises de l'Apocalypse, ou les lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Sauf que, comme c'est parfois le cas d'ailleurs dans la diffusion de certaines séries, on va faire un petit peu dans le désordre, pour des raisons purement techniques. On va sauter à la fin, donc le dernier épisode, et puis les dimanches qui viennent, on reviendra un petit peu en arrière. Donc ce matin, c'est la Odyssée. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit : Voici ce que dit celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est au commencement de toute création. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que par ton esprit, tu nous permettes d'entendre et de recevoir le message de ta parole. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Laodicée. L'église de Laodicée a mauvaise réputation. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est bien probable que vous en ayez entendu parler. C'est le genre d'église dans laquelle on n'aimerait pas être. Vous imaginez, lorsque des pasteurs se rencontrent, tu es dans quelle église, toi, Frédéric ? Melan. Oh, pas mal, pas mal. Et toi ? Laodicée. Ouh là là, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là ? Laodicée. Ni froid, ni bouillant. C'est sa réputation, tiède. D'une tiédeur qui ne fait pas envie, pas la douce tiédeur d'une belle soirée d'été, mais la tiédeur écœurante d'un verre d'eau qui est resté trop longtemps au soleil, ou la tiédeur inquiétante d'une relation qui n'est plus qu'habitude et silence. À quoi sert la tiédeur ? C'est un petit peu la question que pose cette lettre. À quoi pourrait bien servir une église tiède ? Les sources d'eau froide de la ville de Colosse, juste à quelques kilomètres de Laodicée, étaient renommées des eaux pures, des eaux potables, comme celle d'Évian. Les sources d'eau chaude de la ville de Hiérapolis, juste à quelques kilomètres de Laodicée, étaient renommées pour leurs effets thérapeutiques. On pouvait y faire des cures, comme on fait aujourd'hui dans les Pyrénées. Mais est-ce que vous aimeriez voir sortir en permanence de votre robinet une eau tiède ? Une eau tiède. Excusez-moi de le dire, mais c'est le genre d'eau qui donne envie de vomir. Et d'ailleurs, la lettre ne se prive pas de le faire remarquer. À quoi peut bien servir une église tiède ? À quoi peut bien servir un chrétien tiède ? Il ne s'agit pas de dire qu'il vaudrait mieux que l'église soit froide, parce que pour une église, cette froideur, ce serait sûrement la froideur de la mort, et alors on ne pourrait plus parler d'église, on ne pourrait plus parler de chrétien, et le problème serait réglé. Mais parler d'église tiède, parler de chrétien tiède, c'est un petit peu comme parler d'un sel sans saveur, ou d'une lumière cachée. À quoi ça sert ? À quoi sert le sel s'il ne sale pas ? À quoi sert la lumière si on la cache sous un seau, si on ne la laisse pas éclairer ? Alors j'ai cherché dans l'annuaire évangélique pour voir si je pouvais trouver des églises tièdes. Pour voir à quoi ça ressemble, hein, ce genre d'église. Mais je n'en ai pas trouvé. Parce qu'évidemment, ce n'est pas écrit au-dessus de la porte, hein, lorsque vous franchissez le seuil. Église chrétienne tiède, église tièdement évangélique ou église protestante de la tiédeur. J'allais regarder aussi dans la partie des noms propres de l'annuaire évangélique, mais je l'ai vite refermé en me disant, et si jamais tu y trouves ton nom, tiède, mon nom est tiède. Le Christ qui se présente à l'église de Laodicée et l'amène, vous avez entendu son nom, son titre, il est le témoin fidèle et véritable, il est le commencement de toute création. La création peut-être du livre de la Genèse, des tout débuts, mais probablement aussi, surtout, la nouvelle création, celle que Dieu est en train de mettre en œuvre, celle que Dieu prépare. Tout ce qui manque à l'église de Laodicée, on peut le voir dans ce portrait du Christ. Le Christ est à coup sûr tout ce que l'église de Laodicée n'est pas, il est à coup sûr tout ce que nous ne sommes pas, et il nous montre tout ce que nous sommes appelés à être. En tant que commencement de la nouvelle création, il est celui qui nous entraîne dans le mouvement de Dieu, dans le mouvement engendré par Dieu, dans le projet que Dieu est en train de mettre en œuvre dans le monde. Et c'est à sa suite, mais uniquement à sa suite, que nous entrons dans cette nouvelle création. C'est en lui ressemblant, c'est en nous attachant à lui que nous nous joignons à ce mouvement dont il est le premier-né, dont il est le commencement même. On peut donc déjà deviner qu'il va être question dans cette lettre de renouvellement, du renouvellement d'une relation, du renouvellement de la relation avec Jésus-Christ. Et quand je dis relation, ce n'est pas au sens banal, habituel, mais au sens fort, parce qu'il faut bien le comprendre. Tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, nous le sommes en relation avec Jésus-Christ. Si nous sommes sauvés, c'est en Christ. Si nous sommes justifiés, c'est parce que Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament va très loin en le disant, vous le savez, vous êtes mort avec le Christ, vous êtes ressuscité avec le Christ. C'est le sens du baptême chrétien. Et il ajoute même, vous êtes dans la gloire céleste, déjà maintenant, mais avec le Christ. Attention, c'est uniquement en Jésus-Christ. L'église de Laodicée apparemment semblait l'avoir oubliée. Elle qui pouvait dire, elle qui pouvait penser, eh bien, je suis riche. Je me suis enrichi. Ce qui veut dire que probablement que je suis sur la bonne voie, que Dieu m'approuve, que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de particulier, que tout va bien pour moi. Cette église de Laodicée, qui vit comme dans un rêve, dans une sorte de torpeur aveugle, va bientôt découvrir que la réalité peut très vite passer du rêve au cauchemar. Si donc le Christ est tout ce qui manque à l'église de Laodicée, alors cette église, elle va le découvrir soudain, brutalement. Cette église a besoin d'une injection de la puissance du Christ, elle a besoin d'une injection de la vie de résurrection du Christ. Alors elle pourra sortir de sa torpeur spirituelle, alors elle pourra ouvrir les yeux sur la réalité et réaffirmer son attachement au Seigneur Jésus-Christ. Quel est donc le problème de l'église de Laodicée? Quel est donc le problème de toutes les églises qui lui ressemblent, de tous les chrétiens de Laodicée ou d'ailleurs qui se ressemblent? Je pense qu'on pourrait le résumer en un mot, en un seul mot, c'est le mot vocation. Quelle est la vocation de l'église? Quelle est notre vocation de chrétien? Autrement dit, à quoi sert l'église? Autrement dit, à quoi servent les chrétiens? On comprend bien à quoi peut servir une eau fraîche, une eau pure, une eau limpide. Elle étanche la soif, elle fait du bien, elle restaure le corps. On comprend bien à quoi peut servir une source d'eau chaude. On peut s'y baigner, on peut en être purifié, elle dégage les poumons et je ne sais quoi. Mais à quoi peut servir, à quoi peut bien servir cette eau tiède qui écœure celui qui la boit, qui donne la nausée, qui ne satisfait ni ceux qui veulent être rafraîchis, ni ceux qui veulent être réchauffés? À quoi sert l'Église? À quoi servent les chrétiens? Chacun pourrait le dire à sa manière, il y aurait sûrement 36 000 façons de dire ce que peut être l'Église. Et d'ailleurs, la lettre ne le dit pas. En fait, elle considère qu'il est évident que l'Église sert à quelque chose, que les chrétiens servent à quelque chose. Et elle reproche à l'Église de Laodicée sa tiédeur inutile et misérable. Sans rentrer dans les détails, je pense qu'on peut au moins dire ceci. l'Église et les chrétiens servent à témoigner passionnément de la vérité de Jésus-Christ. Par notre vie commune, par nos actes, par nos paroles, par notre vie individuelle, nous témoignons de ce que Jésus-Christ est pour nous, chacun à sa manière, le plus souvent sans le savoir, mais notre attachement à Jésus-Christ le dit d'une manière ou d'une autre. Jésus est l'Amen, il est le témoin fidèle et véritable, il est le commencement même de la création de Dieu. Voilà, ceci dit, bonjour les critiques. Tu te crois riche, mais tu es misérable, pitoyable, pauvre. Tu crois voir alors que tu es aveugle, tu te crois bien habillé alors que tu es nu. Ironie cinglante. Je vais te vomir de ma bouche. J'ai beau me dire en lisant et en relisant cette lettre que je suis prêt à accueillir les critiques, que je suis ouvert d'esprit. C'est pas pour me vanter, mais bon. Mais je ne suis pas sûr que j'apprécierais si vous me disiez ce genre de choses. En tout cas, ne me dites pas tout d'un seul coup, s'il vous plaît. Parce que ça fait quand même beaucoup à avaler en une seule fois. Est-ce que ça vous rassure de savoir, verset 19, que le Seigneur reprend et corrige ceux qu'il aime, ceux qu'il aime ? Qui aime bien châtie bien, dit-on. Mais ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. Alors, réfléchissons-y quand même un instant. Premièrement, et contre toute attente, le Seigneur aime l'Église et les chrétiens de Laodicée. Permettez-moi de le dire et de le redire, parce que c'est bon de le savoir, parce que ça ne saute pas aux yeux à la lecture du texte. La démarche de cette lettre, aussi vive et aussi forte soit-elle, c'est la démarche de l'amour. J'ai dit que le Christ est tout ce que l'Église de Laodicée n'est pas. Eh bien, oui, même dans la force et la passion de son discours, il est ce que l'Église de Laodicée n'est pas. C'est la tiédeur contre la passion. Les reproches qui sont faits à l'Église sont suscités par l'amour et portés par la passion. Deuxièmement, notez-le bien, ce n'est pas du jugement divin final dont il est question, mais c'est d'une éducation présente. Dans le temps présent, aujourd'hui, le Seigneur travaille à notre éducation. Il nous forme. Il nous donne des conseils. Je te conseille d'acheter de l'or purifié par le feu. Il nous forme par ses critiques, il nous forme par le regard qu'il porte sur nous, tout en nous assurant en permanence de son amour. S'il peut dire à Laodicée, tous ceux que j'aime, je les éduque, alors, frères et sœurs, soyez tranquilles, vous êtes vous aussi aimés par le Seigneur. Troisièmement, comment le Seigneur nous éduque-t-il ? Eh bien, il le fait par sa parole. Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Voilà ce que le Seigneur fait avec cette lettre. Il nous éduque par sa parole. En résumé, nous sommes face à des critiques qui sont dures, qui font mal à entendre, mais qui ne sont pas encore des indices de la colère du jugement de Dieu, mais des indices de son amour paternel. Pour le jugement, ce n'est pas encore le temps, mais l'amour paternel, oui, c'est maintenant qu'il s'exerce par une parole parfois critique, parfois positive, mais par une parole qui nous est directement adressée. Alors, à la lecture de cette lettre, et avec peut-être ceux et celles d'entre vous qui sont dans l'enseignement ou dans l'éducatif, on peut oser se poser cette question. Est-ce que le Seigneur est un bon pédagogue ? Est-ce que le message passe ? Est-ce que sa méthode éducative est convaincante ? Je remarque que le Seigneur connaît les œuvres de l'Église de Laodicée. Donc, il a, si vous voulez, le recul nécessaire pour parler. Il sait de quoi il parle. Il connaît la personne concernée, les personnes concernées, et il connaît le problème. Il me semble que pour qu'une éducation fonctionne, il faut qu'il y ait cette relation, bien sûr, cette connaissance, et puis ce recul. Si vous venez me dire, à la sortie du culte, écoute Christophe, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Bon, moi je peux vous retourner à la question en vous disant, mais est-ce que tu me connais pour dire ça ? Est-ce que tu sais de quoi tu parles ? Et puis est-ce que nous avons entre nous une relation qui permet que tu me dises des choses pareilles. Le Seigneur sait, le Seigneur nous connaît, le Seigneur s'adresse à nous dans le cadre de la relation de confiance que nous avons établie avec lui. Alors, quelle est sa démarche pédagogique ? Il me semble qu'elle tient en trois points, en tout cas je la résume en trois points. 1, ouvrir les yeux. 2, montrer la voie. 3, renforcer la relation. Ouvrir les yeux. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune guérison d'aveugle, aucun miracle de guérison d'aveugle, sauf erreur de ma part. Il n'y a que Jésus dans la Bible qui ouvre les yeux. Lui seul peut nous permettre de passer de l'aveuglement à la vue. Nous savons bien que l'humanité a un problème fondamental d'aveuglement. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Est-ce que vous connaissez l'histoire des beaux habits de l'empereur? Hein? Bon, je vous rafraîchis la mémoire, mais vous allez voir, ça va revenir. C'est l'histoire. Je vous la raconte. C'est pas biblique, hein, mais c'est un conte traditionnel. C'est l'histoire d'un empereur qui aimait beaucoup les beaux vêtements, les beaux habits neufs. Et puis un jour, deux escrocs ont réussi à lui vendre un habit magnifique, mais qui avait la particularité d'être aveugle, d'être invisible, pardon, pour les imbéciles. En fait, il n'y avait rien du tout, mais voilà. Et comme personne ne voulait passer pour un imbécile, eh bien, tout le monde chantait les louanges des beaux habits de l'empereur. Et l'empereur lui-même, quand l'habit a été prêt et que le moment est venu de le passer, l'empereur lui-même ne voit rien, mais n'ose rien dire pour ne pas passer pour un imbécile. Magnifique, dit-il, et tout le monde est enchanté. Et puis arrive le moment où il va falloir montrer les beaux habits de l'empereur au sujet de l'empereur. Et donc l'empereur sort dans la rue et tous les sujets s'écrient bien sûr « Le nouvel habit de l'empereur est magnifique !» Personne ne veut passer pour un imbécile. Jusqu'à ce que un enfant, une petite voix d'enfant se fasse entendre « Mais il n'a pas d'habit du tout !» Et là les gens commencent à se dire les uns aux autres « Il n'a pas d'habit du tout !» Il n'a pas d'habit du tout. Le roi est nu. L'orgueil conduit à l'aveuglement. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Donc j'ai tout ce qu'il me faut et donc tout va bien, je suis bien habillé, etc. Les dieux sont de mon côté. Le prophète Osée, déjà il y a bien longtemps, le reprochait à Israël. Tu dis, je suis riche, donc je n'ai pas de péché. L'être humain, bien souvent, se laisse aveugler par son orgueil. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et la parole du Christ alors se fait entendre comme la voix de cet enfant qui dit « Le roi est nu, il n'y a rien du tout ». Vous savez que l'être humain peut difficilement s'évaluer lui-même. C'est difficile de parler de soi et d'avoir un regard objectif sur soi. C'est pourquoi nous avons besoin de cette petite voix. Nous avons besoin de la parole du Christ. Nous avons besoin de ce regard extérieur, faute de quoi alors nous risquons de nous croire riches, indépendants, arrivés, alors que nous ne sommes peut-être qu'en réalité pauvres, misérables, aveugles et nus. Nous ouvrir les yeux, telle est la première étape de la démarche pédagogique du Seigneur. La deuxième étape, c'est de nous montrer la voie, tout simplement. Je te conseille d'acheter de l'or pur, des vêtements blancs et des médicaments pour tes yeux. Ce sont des images qu'il faudrait réfléchir, méditer, travailler, des images de pureté, des images de consécration, des images de discernement. Mais c'est surtout une voie qui nous est offerte pour nous éviter l'anesthésie spirituelle que cause l'orgueil et pour nous garder dans la sensibilité et la réceptivité à la parole du Seigneur. Et puis, troisième et dernière étape de la pédagogie éducative du Christ, renforcer la relation qui nous unit à lui. En tout cas, nous proposer un renforcement de cette relation, parce qu'on peut difficilement, de manière unilatérale, renforcer une relation. Une relation, c'est deux personnes au moins. Voilà ce que dit le Seigneur. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Cette déclaration me rappelle celle du bien-aimé dans le Cantique des Cantiques. Ce poème d'amour de l'Ancien Testament, le bien-aimé se tient à la porte de la maison de sa bien-aimée et il frappe. Et dans le poème, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais dans le poème, la bien-aimée entend frapper à la porte. Elle sait qu'il frappe, seulement voilà, elle s'est préparée pour la nuit. Donc bon, elle n'a pas envie de se lever. Et au moment où elle décide de se lever, eh bien, elle ne peut que dire « Hélas, mon bien-aimé est parti ». Il s'en est allé. Une histoire d'amour qui finit mal. L'appel du Christ est au présent. Il n'est pas dit, c'est vrai, je vous l'accorde, il n'est pas dit, je me tiens à la porte et je frappe. Attention, si tu ne te lèves pas tout de suite, je vais m'en aller. Non, ce n'est pas dit. Mais ce qui est sûr, c'est que l'appel est au présent. Il n'est pas dit, demain, je me tiendrai à la porte et je frapperai. Il est dit, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur nous invite au renouvellement de la relation. Se pourrait-il que nous ayons besoin d'entendre cet appel aujourd'hui encore ? Il nous propose de rendre encore plus forte et plus sensible cette relation que nous avons avec lui maintenant et qui se prolongera jusque dans l'éternité. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous éclaire, que nous entendions ses conseils et que nous répondions à son appel, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.